Et dans l'écho des communes, aujourd'hui, nous sommes à Barcelonnette avec le maire, c'est Pierre-Martin Charpenel. Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, on va parler de ces travaux entrepris sur votre commune. Ils concernent l'éclairage public, plusieurs tranches, un gros investissement. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui est en cours?
Alors, au départ, notre motivation, faut être objectif et sincère, était uniquement des économies d'énergie. Pour une raison, c'est que nous étions largement subventionnés dans le cadre du territoire à énergie positive et de la croissance verte. Donc, on a profité de ce programme pour se faire bien subventionner ce programme de réfection de l'éclairage public. Sachant qu'à Barcelonnette, nous avons plus de 1000 points lumineux. C'est énorme. C'est énorme et c'est dispendieux surtout. Donc, la première tranche est terminée. C'est le vieux noyau, disons, médiéval du vieux Barcelonnette avec toutes ses rues parallèles et perpendiculaires. Une deuxième tranche est en cours en élargissant autour du centre. Et pour terminer, on aura une troisième tranche en fin d'année. Alors, on se limitera, je dirais, à changer des ampoules par des blocs de LED économiques tout en évitant la pollution lumineuse.
Tout ça va coûter combien? C'est quoi l'enveloppe globale?
C'est voisin de 600 000 euros, un peu moins de 600 000 euros, quand on aura terminé toutes ces trois phases.
Et subventionné du coup à hauteur de combien?
Alors, il y a 450 000 euros subventionnés à 80%, et la dernière tranche de 141 000 euros, elle est subventionnée à 100%.
Est-ce que là déjà vous avez une idée des économies que ce nouvel éclairage va pouvoir faire?
Alors, le bureau d'études auquel on a fait appel au départ nous a assuré que si nous faisions toute la ville, alors, on ne la fera pas toute non plus encore, mais on en fera quand même une grande partie, on économiserait 84%. Donc, on est certain déjà d'arriver à plus de 50% d'économie d'énergie, donc d'euros aussi sur nos dépenses d'énergie.
Parce que là, c'est combien en fait de pourcentage de la ville qui est couvert avec ces différentes tranches?
On peut dire, par rapport à la surface de la ville, je dirais qu'on couvre plus de la moitié largement de la surface, c'est-à-dire que les écarts les plus lointains sont pas les mieux éclairés, il faut bien le dire. C'est là où il y a peut-être le moins de luminaires, de lampadaires. Donc, on dépassera largement les 50% et le territoire sera couvert à 60 ou 70%.
La dernière fois qu'on s'était rencontrés, on avait parlé de ce projet d'observatoire sur votre commune. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce projet?
Ce projet, on le suit toujours de très près. Il a bien avancé et on a même été encouragé. Qu'une demande de financement de 47 000 euros pour une étude de faisabilité d'une part et une étude de marché aussi, pour voir l'impact que pourrait avoir cet outil dans cet observatoire. Je rappelle, c'est une lunette astronomique et non pas un télescope. L'impact qu'aurait cette lunette sur les amateurs d'astronomie. Donc, cette étude a été financée par l'Europe, encore une fois, si je peux dire, parce que l'Europe nous aide bien dans des dossiers un peu originaux comme ça, à 90%. Alors, l'étude de faisabilité et l'étude de marché vont démarrer maintenant, puisque l'accord a été donné sur ce projet. C'est un encouragement. Et je dirais que c'est prévu sur le territoire de Barcelonnette, mais ça intéresse largement la vallée. Ça suit le programme que nous avons fait un éclairage public. Et à ce sujet, je dois préciser que le parc du Mercantour, où on n'a pas encore reçu le papier nous disant on est vraiment dans le parc, nous a aidé justement pour corriger pas mal de points techniques sur l'éclairage public. En particulier, c'est un point de détail, mais la température de couleur. C'est-à-dire qu'on n'aura pas une lumière blanche froide, on aura une lumière chaude, 2700 degrés K, Kelvin, qui fait que c'est une lumière, d'abord, pour l'homme, intéressante, parce que c'est pas une lumière fatigante ou qui fait mal aux yeux, et pour les insectes et pour tout un tas de choses. Et on aura des luminaires qui ne remettront pas la lumière dans le ciel, mais toutes vraiment vers le sol. Et ça, c'est dans une perspective de ville et village étoilés, où nous avons une première étoile. Je considère que c'est un encouragement. Il y a des communes qui ont eu deux ou trois étoiles dans la vallée, mais qui, le soir, décident de couper de minuit à 6 h. Et nous, pour le moment, on n'a pas envisagé ça. Donc, on rejoint aussi le parc du Mercantour, qui a un projet de réserve internationale de ciel étoilé. Donc, on peut dire que la vallée de Lubaye, un jour, pourrait être intégrée dans cette réserve internationale de ciel étoilé que porte le parc du Mercantour, puisque la plupart des communes ont déjà fait des efforts et continuent.
Ce projet d'observatoire s'inscrirait logiquement dedans, c'est ça?
Je pense que nos montagnes, la vallée ici, est connue pour la qualité de son ciel pur, parce qu'on n'a pas d'humidité dans l'air, on a une altitude suffisamment aussi pour nous éviter tout un tas de pollution. Donc le ciel, naturellement, il est étoilé chez nous. Et si on fait des efforts sur l'éclairage public, et qu'un jour on peut dire, venez dans cette vallée, il y a un observatoire astronomique, et tous les villages aux alentours sont labellisés villes et villages étoilés, c'est toujours un plus pour montrer aux gens la qualité de notre ciel.
Le rapport là qui va être mis en place, donc pour justement un petit peu en savoir plus si il y aura des retombées économiques, touristiques positives par rapport à cet observatoire. Quand c'est que du coup vous aurez le retour ça va être fait cette année?
Oui, ce programme, cette étude va démarrer cette année. Donc le programme sera peut-être fini en fin d'année, certainement. On aura des bases précises de chiffrage pour savoir l'engagement financier que supporterait la collectivité ensuite. De même que pouvoir demander des subventions, toujours pareil, la chasse aux subventions. Et aussi une étude de marché qui nous fera, qui doit nous conforter dans cette idée qu'on sera originaux et qu'il n'existe pas d'équivalent dans le Sud-Est ni ailleurs pour un tel observatoire.
Ça sera à suivre en tout cas donc à Barcelonnette. Lorsqu'on pense à Barcelonnette, on pense forcément à ces villas mexicaines. L'une d'entre elles, la Villa Anita, a été partiellement détruite, le toit, après un incendie. Où est-ce qu'on en est du coup aujourd'hui pour peut-être une reconstruction, une réhabilitation de cette villa?
Oui, vous avez raison, parce que elle ne passe pas inaperçue. Cet incendie, ça a été vraiment un choc pour tout le monde, parce qu'on a vu un puissant, les pompiers aussi ont fait venir des renforts, tout ça. Ça s'est développé, le toit a disparu complètement. Donc la charpente aussi, il y a des planchers qui, paraît-il, se sont effondrés. Donc c'est une verrue maintenant, alors que c'était un petit bijou qui avait été restauré il y a une dizaine d'années. Elle était assez originale, avec une petite tourelle sur le côté, des beaux windows. C'était une belle villa mexicaine, on peut le dire. Et puis surtout, bien un bon emplacement.
Centrale.
Tout le monde la voyait de manière centrale et tout. Donc j'estime que c'est un préjudice que nous subissons de dégradation du paysage urbain. Donc notre souhait, et on va entreprendre tout ce qu'il faut, je ne vais pas le détailler ici, mais on a un plan d'action, je dirais, pour éviter que cette maison, qui est triste à voir maintenant, ne reste pas des années.
Est-ce que déjà c'est chiffré, les travaux?
Non, pour le moment, il y a simplement un arrêté de péril, c'est-à-dire de sécurité. Et notre idée, c'est qu'avant l'hiver, si on pouvait protéger ce qui reste, pour pouvoir rebâtir sur ces quatre murs qui sont quand même encore intacts, qui sont jolis, c'était encore un rêve, ça, mais... On va s'employer pour pas, que ça dure trop longtemps et que cette verrue disparaisse le plus tôt possible.
Il y a une autre villa emblématique, forcément à Barcelonnette, c'est la Sapinière qui abrite aussi le musée. Une souscription a été lancée il y a à peu près un an. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette souscription et puis de ce projet de réhabilitation aussi de ce musée?
Ce projet de 460 et quelques mille euros pour rénover complètement le rez-de-chaussée au point de vue muséographie, présentation, thème, le thème exposé va être aussi très attractif. Ça va être quelque chose d'unique dans l'arc alpin, je pense que ça va intéresser beaucoup de public. Et on va faire aussi de la véranda un espace de vie ou un espace de repos pour les visiteurs du musée. Donc 460 000 euros, financés par l'Europe à 85%, et pour les 15% qui nous manquent, comme vous le disiez, il y a un an, on a lancé une fondation auprès de la Fondation du patrimoine. Donc les 15% sont largement dépassé. Maintenant, on en est à plus de 100 000 euros. Donc, on est assuré de pouvoir finir ce programme. Alors, sachant qu'on a déjà pris un architecte, que l'appel d'offres va être lancé pour des travaux, etc., ça, c'est bien engagé. Et il nous reste encore, cette souscription est maintenue parce que nous comptons aussi refaire le toit qui n'était pas dans le programme européen parce que l'Europe ne nous a pas aidé beaucoup sur les investissements purs. Conclusion, ce toit, nous espérons bien et la souscription continue donc pour que nous arrivions à remplacer ce toit qui doit dater des années 1880 ou 1910, je ne sais pas, qui a des fuites. Et c'est dommage de laisser un immeuble comme ça avec des fuites sur sa toiture.
Est-ce qu'on sait, pour terminer, quand les travaux pourraient débuter, à la fois pour la toiture, mais aussi pour l'espace muséographique?
Alors, on a une réunion la semaine dernière avec les Italiens, parce que c'est un projet franco-italien, donc on suit tout ça en parallèle avec eux. Les travaux d'étanchéité pour les fondations de la villa, par exemple, seront repris pour conforter toujours la véranda qui est en saillie sur la construction elle-même. Les travaux démarreront vers le 15 octobre. Ça, c'est acquis. Ensuite, pour tout ce qui est partie muséographie, tout ça, on s'est réunis déjà. On n'a rien fixé pour le moment. Il est certain qu'on va faire appel à des spécialistes. Et la prochaine réunion qu'on a envisagée, c'était de réunir des gens qui pourront nous donner des idées à partir du thème qui a été retenu. Le thème, c'est l'émigration des Piémontais en Haute-Provence. À partir de là, il y a des spécialistes, il y a des gens qui connaissent ça. Comment mettre en œuvre cette belle idée d'expliquer cette migration des Piémontais que l'on retrouve dans les Hautes-Alpes, dans les Basses-Alpes et partout. Et ça complétera la partie qui explique aussi l'émigration lointaine des gens d'ici vers le Mexique.
Merci beaucoup.
Merci à vous.